Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Maison d'aliénés ou colonie familiale, la société face à la folie. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que la folie ? Le mot est complexe à utiliser avec précaution. Il dépend du regard de l'autre, de celui porté par l'autorité et de la norme sociale qu'elle impose. Dès lors, comment nommer celles et ceux qui s'écartent de cette norme ? Des folles, des fous, des insensés, des gens privés de raison et pourquoi pas des aliénés. Perdre la raison. La question n'est pas seulement empirique, en s'appuyant sur l'expérience, au risque d'être confus.
Qu'est-ce pour l'homme que perdre la raison ou en être privé ? Ce n'est pas là uniquement une question de fait, résolue par la prise en considération de critères empiriques. C'est une question de droit, dont l'examen engage une théorie générale de la condition humaine, c'est-à-dire une métaphysique et même une théologie.
Quel programme ? C'est le philosophe Georges Canguilhem qui s'exprime en 1956. Bonjour Anatole Lebras.
Bonjour.
Bonjour Marie Desriens.
Bonjour.
Qu'est-ce que la folie ? Je vous pose la question comme ça, elle est bien difficile, hein, mais nous allons en parler pendant toute une émission. Si nous nous situons au 19e siècle, Marie Desriens, il y a une définition de la folie que l'on pourrait donner ?
Alors, on peut se placer d'un point de vue médical pour définir la folie. Et dans ce cas-là, il faut se référer à des classifications, à une nosologie, à des connaissances scientifiques disponibles à cette époque. Mais la définition de la folie, les médecins ne sont pas les seuls à la donner, à la fixer. La frontière entre le normal et l'anormal, entre l'anormal qui relève de la justice ou de la police et l'anormal qui relève de la médecine, cette frontière, elle est aussi tracée par tous les individus qui entourent un individu dont la santé mentale est mise en cause. Donc ça va être les proches, le voisinage, le commissaire du quartier, etc. etc. Et selon les configurations économiques, historiques, selon les normes sociales en vigueur à un moment donné, selon aussi les configurations familiales, parfois le logement dans lequel on habite, selon l'âge, le genre, la classe, la race d'un individu. Et puis j'ajoute selon les solutions institutionnelles qui sont disponibles pour prendre en charge les personnes, eh bien on ne va pas du tout définir de la même façon un état qui relèverait de la psychiatrie et qui s'apparenterait à une forme de folie, et puis un état qu'on qualifiera pas ainsi. Donc effectivement c'est une question très complexe.
Ah bah c'est un marginal. Ah oui, mais il est fou. C'est ça, hein. C'est ces limites qui sont extrêmement difficiles à saisir, Anatole Lebras. C'est vrai que cette définition-là dépend de qui va porter le discours. On l'a bien entendu, hein, l'autorité, le discours médical. Ce que j'entends aussi ici, c'est le comportement. C'est identifier le signe qui va dire que, attention, cette personne s'écarte de la norme attendue.
Oui, et d'ailleurs, la loi du 30 juin 1838, grande loi dont on va beaucoup reparler aujourd'hui, elle se garde bien de définir l'aliénation mentale. Elle n'en donne absolument pas de définition positive. Elle laisse à différents acteurs le soin, justement, de juger ce qui en relève ou non. Et tout cela va relever très souvent des conditions matérielles, pratiques, des différents acteurs impliqués à un moment ou à un autre dans les rouages de cette loi, comme l'a décrit Marie. Et donc, au cours du temps, au cours du 19e siècle et du 20e siècle, les frontières de ce qu'est la folie ou la maladie mentale ne cesseront d'être discutées, redéfinies, à la fois à l'échelle des grands débats théoriques, des grandes théories médicales, mais aussi à l'échelle qui est celle des parcours individuels et de ces bifurcations parfois un peu incertaines que prennent les individus à un moment donné dans la manière dont ils vont être catégorisés par leur entourage, par la société.
Voilà, le socle solide du discours juridique, la loi de 1838. Merci Anatole Lebras, parce qu'au moins comme ça, eh bien, on va avoir une définition précise. Le juriste sait ce qu'il fait. Le député, au moment de voter cette loi, a réfléchi à la question. C'est quoi la définition en 1838 ? Qui peut être considéré comme une personne ? Alors, on disait quoi ? Alors, aliéné ?
Aliéné, c'est effectivement le terme qui s'impose et qui se substitue à celui d'insensé qui dominait au XVIIIe siècle. Et donc effectivement, à travers cette loi de 1838, en tout cas, alors la question de la définition de l'aliénation mentale reste complètement ouverte, mais en tout cas, il y a cette idée que ce domaine de l'aliénation mentale, il doit être plus clairement distingué d'autres formes de la marginalité et de la déviance. Si on fait un bref retour en arrière, hein, au XVIIIe siècle, les insensés, ils peuvent se trouver dans une grande diversité de lieux d'enfermement, dans les prisons et maisons de force, à l'hôpital général, de manière transitoire à la fin du XVIIIe siècle, dans les dépôts de mendicité. ce qui s'impose au début du XIXe siècle, et puis notamment avec cette loi de 1838, c'est l'idée qu'il doit bien avoir un enfermement séparé, distinct, dans des institutions spécialisées pour les aliénés, et qui se distingue à ce titre des vagabonds, des mendiants, éventuellement des prostituées, qui parfois pouvaient se trouver dans les mêmes lieux d'enfermement.
Effectivement, la loi de 1838, elle impose le traitement des maladies mentales dans des établissements spéciaux qu'on appelle les asiles d'aliénés. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette loi, elle a été constamment aménagée, parfois même contournée, pour inventer d'autres dispositifs de prise en charge que ces fameux asiles d'aliénés. On a eu tendance à la décrire comme une loi monument qui serait restée intouchée jusqu'à sa réforme en 1990, donc effectivement très tardivement. Mais quand on regarde de plus près ce qui se passe sur le terrain, on se rend compte que cette loi n'était pas aussi rigide que cela et qu'il y a eu des moyens de faire autre chose que ce qu'elle prévoyait au départ.
Et ça a un sens très fort de se dire que dans ces années 1830, l'idée de créer des lieux spécifiques pour accueillir des personnes qui ont un besoin, alors on a du mal à le définir et vous le dites clairement, la définition est complexe, c'est une rupture sans nom avec ce qui se passait auparavant parce que Anatole Le Braz, toutes ces personnes, mais j'ai entendu ce que vous avez dit, c'était la prison en fait, on ne savait pas où les mettre et vous avez parlé de vagabonds, c'est-à-dire que sur l'éventail très large des gens qui sortent du cadre attendu par les autorités, on va du vagabond à la personne complètement démente, insensée. Et là, il n'y a pas de solution autre que la prison, c'est-à-dire qu'on va être enchaîné. Il y a quand même des réflexions auparavant pour se dire on ne peut pas considérer quelqu'un qui est vagabond et qui a commis un crime, un vol, avec quelqu'un qui semble avoir perdu la raison.
Les catégories d'insensés, de vagabonds, de mendiants, etc. peuvent être un petit peu regroupées dans le cadre du processus que Michel Foucault a décrit comme le grand renfermement à partir du XVIIe siècle, qui a été une sorte de mouvement de mise en ordre de l'espace urbain dans le cadre duquel, effectivement, on a voulu réduire un certain nombre de déviances et ces différentes catégories qu'on vient d'évoquer pouvaient être assimilées dans ce mouvement d'enfermement. Mais tout de même, pour nuancer un petit peu, il faut aussi dire qu'il y a des institutions spécialisées qui existent avant la loi de 1838, qui a des établissements qui se consacrent exclusivement aux soins des aliénés depuis très longtemps. Il y a des exemples séculaires, notamment avec l'asile de Bedlam en Angleterre. Et puis en France, au début du 19e siècle, on assiste à un mouvement assez important de fondation d'institutions spécialisées. Certains par des médecins et d'autres qui sont fondés aussi par des congrégations religieuses. Et donc tout n'a pas commencé tout de même avec la loi de 1838.
Oui, il y a un nom qu'il faut citer ici, c'est celui de Pinel, personnage important, né à la toute fin du XVIIIe siècle, hein, c'est le moment de la Révolution française.
C'est en pleine tourmente révolutionnaire, effectivement, d'abord en 1793 à Bicêtre, puis en 1795 à la Salpêtrière, Pinel procède, dit-on, à ce geste un petit peu mythique qui est celui de la libération des aliénés de leur chaîne. Alors depuis, on a pu nuancer un petit peu ce geste, même s'il a été immortalisé, qu'il est un peu rentré dans les livres d'histoire et dans la statuaire aussi. Il y a une belle statue de Philippe Pinel qui se trouve sous le boulevard de l'hôpital près de la Salpêtrière aujourd'hui à Paris. Ce geste, en réalité, il a probablement pas été décidé soudainement par Pinel. En réalité, il avait été aussi préparé par tout le travail de Jean-Baptiste Pussin, qui était le gardien des aliénés de Bicêtre. Mais toujours est-il qu'il est resté un petit peu comme le symbole du nouvel ère et d'un nouveau récit que cette profession en construction des aliénistes essayait d'imposer, celui donc d'un nouveau regard porté sur la folie, porté par le courant des Lumières, par une dimension humaniste et qui affirmait la curabilité de la folie et qui affirmait la nécessité aussi de la traiter avec douceur et avec humanité.
Oui, et puis à côté de ce mouvement-là qui est le discours médical, il y a tout ce mouvement religieux que vous avez déjà évoqué. Tous prennent en charge ces personnes. La difficulté, Marie Desrien, d'étudier le sujet correspond à la difficulté de ces personnes des temps passés de définir le sujet. Parce que personne curable ou incurable, selon le genre, selon l'âge, c'est tellement varié, tellement complexe. J'imagine que pour étudier le sujet, c'est un peu aussi cette difficulté qu'il faut surmonter.
Oui, tout à fait. Et ça implique, bien sûr, de travailler sur ces asiles d'aliénés qui sont construits à partir de la fin du 19e siècle, à la suite de la loi 1838, mais aussi d'aller chercher ailleurs ces individus qu'on considère comme fous, voilà, avec cette question de la définition qu'il faut mettre derrière le mot, d'aller chercher hors des asiles la trace de la prise en charge et de la manière dont on se représente ces maladies. Et ça, c'est vraiment un enjeu pour les historiens et pour les historiennes de la psychiatrie et de la folie.
Enjeu transdisciplinaire, bien sûr, nous l'avons cité, Michel Foucault.
Au début encore du XVIIe siècle, on peut dire que la folie vivait à l'état libre dans la société. Le fou avait sa place, la folie avait son rôle, elle était chargée souvent de dire la vérité, de manifester paradoxalement la raison. Et voilà qu'au milieu du XVIIe siècle, on la supprime. On établit des grandes maisons d'internement qui valent non seulement pour les fous, mais pour tous les inutiles sociaux, tous les gens dont on voulait se débarrasser. Et puis la grande libération provoquée par la philanthropie du XVIIIe siècle et par la Révolution a laissé les fous seuls dans ces maisons d'internement qui avaient été aménagées pour bien d'autres que pour eux. Et alors, les fous ont pris possession de ces maisons d'internement et la médecine en a pris en même temps possession. Et au fond, on peut dire ceci, c'est que la folie n'est devenue maladie mentale qu'à partir du moment où les médecins ont pris possession de ces asiles et de ces maisons d'internement, où les fous avaient été jusqu'alors mêlés à tous les autres inutiles sociaux.
Michel Foucault qui s'exprimait en 1961, La folie en Occident. Anatole Lebras, vous êtes l'auteur d'Aliénés, au pluriel, une histoire sociale de la folie au XIXe siècle. Ce sont les éditions du CNRS. L'invention de la folie, en fait, on l'entend chez Michel Foucault, correspond aussi à ce regard. Mais on le sait bien qu'ils sont multiples, on l'a compris maintenant. On peut parler d'une invention de la folie dans la volonté d'identifier les personnes qui pourraient éventuellement être soignées ou au moins qui mériteraient d'être mises à l'écart et qu'on s'occupe d'elles d'une manière particulière.
Eh bien, en tout cas, c'est un petit peu ça, l'apport de Michel Foucault au regard des sciences sociales d'une manière générale et puis plus particulièrement des historiens sur la folie. Alors, il y a beaucoup de choses dans le récit qu'il propose et dont on vient d'avoir un condensé là en quelques phrases qui ont été nuancées, affinées par les historiens. Mais en tout cas, un de ses apports majeurs, ça a été effectivement aussi d'historiciser l'objet folie, de sortir de l'idée peut-être un petit peu naïve que la folie ce serait quelque chose qui aurait toujours été là et qui n'attendait que d'être découvert ou mieux décrit par le discours médical. Et Foucault nous dit finalement que ce qu'on appelle la folie ou l'aliénation mentale ne préexiste pas forcément au geste qui la circonscrit, au geste qui l'exclut.
Avec toute la question de d'où vient la folie? Parce que ça aussi, c'est toute la préoccupation pour pouvoir lutter contre cette folie. Marie Desrien, vous êtes maîtresse de conférence en histoire à l'Université de Lille. Cette folie, les médecins la recherchent avec tous les possibles, que ce soit des pratiques de vie ou que ce soit des héritages liés à la génétique.
Oui, tout à fait. C'est ce qui fait le mystère et qui explique aussi la peur que suscite la folie. C'est la difficulté qu'on a à en expliquer les causes, l'origine, comment ça s'attrape, comment ça se transmet, comment on peut faire pour s'en prémunir, pour la traiter. Alors il y a beaucoup de croyances qui viennent répondre à ces questions. Des croyances, par exemple, qui associent au XIXe siècle, mais encore dans certains endroits au XXe et même au XXIe siècle, la folie a des formes de possession démoniaque, a des formes d'ensorcellement, par exemple. Les médecins, eux, vont essayer d'apporter des théories scientifiques pour expliquer l'origine de la folie. Et ces théories, elles se succèdent, parfois elles se contredisent sans qu'aucune ne semble, en tout cas au XIXe siècle, réussir à répondre à cette question. Donc Pinel, par exemple, attribuait la folie à des causes émotionnelles, au fait d'avoir subi, par exemple, un grand chagrin, une peur violente, d'avoir ressenti une colère terrible. Si on avance un petit peu dans le temps, à la fin du XIXe siècle, la théorie qui prédomine, c'est la théorie de la dégénérescence, selon laquelle la maladie est une tare héréditaire qui se transmet et s'aggrave de génération en génération. Donc on est passé à un autre schéma explicatif à ce moment-là. Et puis il y en aura encore d'autres qui vont suivre et qui tentent de mêler ces causes émotionnelles, ces causes organiques pour expliquer l'origine de la folie, et c'est encore le cas de nos jours.
Avec la question de la définition difficile, voire impossible, trouver les origines de la folie, difficile, voire impossible. Bah après, la construction de bâtiments pour accueillir ces gens-là, ça c'est du concret. Comment ça se passe, Anatole Lebras? Vous avez parlé de cette loi de 1838, la création des asiles d'aliénés. Il y a une réflexion autour de ces lieux-là pour qu'ils soient spécifiquement adaptés pour accueillir ces gens?
Oui, bien sûr, il y a une idée qui est fondatrice de l'asile d'aliénés moderne, c'est cette idée que l'asile va être finalement une forme de machine à guérir, que l'asile en lui-même, par son organisation, par le mode de vie aussi qui va y être permis pour les malades qui y sont internés, va produire des effets bénéfiques sur l'esprit dérangé des malades. Il y a une phrase assez célèbre du docteur Archambault qui est souvent reprise, qui est que pour mettre de l'ordre dans l'esprit des aliénés, il faut en mettre autour d'eux. Donc il y a cette doctrine de l'isolement thérapeutique, assez tôt théorisée par Esquirol, qui est un élève de Pinel, qui accrédite l'idée que finalement, le simple fait de l'enfermement dans une institution spécialisée, parce qu'elle coupe le malade de son milieu d'origine et des circonstances défavorables qui ont vu naître sa folie, a quelque chose de thérapeutique. Et c'est aussi cette doctrine de l'isolement thérapeutique qui va être au fondement d'une forme de méfiance envers les proches des malades, envers les familles, et d'une forme de méfiance et de mise à distance qui va s'exprimer dans l'organisation aussi de la vie asilaire, par la manière dont on régule, dont on filtre les venues des familles, et puis plus largement les influences du monde extérieur sur ce monde un petit peu clos qu'est l'asile d'aliénés, qui tend presque d'ailleurs à l'autarcie, hein, parce que, notamment pour réduire les coûts de la prise en charge, on organise aussi toute une activité économique, agricole notamment, entre les murs des établissements.
D'accord, donc cet asile, c'est un lieu où on enferme, au sens où on isole ces personnes de la société, et ça c'est super, ça protège la société, c'est très bien, mais faut pas s'arrêter là comme analyse. C'est qu'il y a aussi la volonté de soigner, c'est-à-dire le fait même de couper les liens avec les origines familiales qui seraient peut-être l'origine de la folie, bah c'est déjà une première étape dans le soin.
Oui, tout à fait. C'est ainsi que Esquirol justifie ce principe de l'isolement, un isolement qui doit être thérapeutique. Il s'agit d'extraire l'aliéné de son milieu social et en particulier de son milieu familial d'origine, de cet environnement dans lequel la maladie est apparue et de le placer dans un asile où, parce que tout est très ordonné, comme disait Anatole, d'un point de vue architectural, mais aussi du point de vue de l'emploi du temps, chaque minute est organisé dans la vie des aliénés, parce que ces asiles sont à la campagne, dans un environnement rural qui est censé être bénéfique à l'apaisement des malades. Pour toutes ces raisons-là, les asiles d'aliénés, au départ, sont pensés comme des lieux où on va traiter la maladie, des machines à guérir, des instruments de guérison, ce sont les expressions en vigueur à l'époque. Et ça, on y croit, en quelque sorte, dans les premiers temps, mais assez rapidement, ce modèle-là est mis à mal.
Ah bah oui, parce que on connaît bien toute cette histoire-là, et de transformer ces lieux-là en... ce que expliquait Michel Foucault, en véritable prison, avec une conception de la médecine qui n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Bien sûr, tout est à revoir sans cesse, et l'importance de se replacer sur ce moment-là, sans jugement sur les conceptions de ces médecins du passé, avec peut-être la volonté, Anatole Lebras, de guérir. Et ça, on sent qu'on est au cœur de toute la réflexion entre les personnes qui vont pouvoir être soignées après être passées dans ces asiles d'aliénés, et d'autres personnes qui sont incurables. Mais dans les deux cas, il faut apporter des réponses. C'est bien difficile, ça, pour les autorités.
C'est bien difficile, d'autant que très rapidement, on passe à une forme d'aliénisme de masse, pourrait-on dire. L'asile d'aliénés idéal, tel qu'il est imaginé par les pères fondateurs, on va dire, de l'aliénisme français, il comporte, on va dire, entre 200 et 300 malades, peut-être un peu plus. Mais à mesure qu'on avance dans le temps, que la loi de 1838 produit ses effets, on a une forme de gigantisme dans les asiles d'aliénés, avec certains asiles qui vont rapidement passer le cap des 1000 malades, voire des 2000 malades, comme à l'asile de Clermont, dans l'Oise, qui était le plus grand asile de France au XIXe siècle. Et donc, évidemment, dans ce cadre qui est celui d'institutions gigantesques à la croissance assez rapide, le traitement moral tel qu'il avait été imaginé au début du XIXe siècle, il ne peut pas s'appliquer exactement de la même manière, ou du moins, il va avoir tendance à se transformer en ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire un mode de vie bien réglé pour tous. Mais on est bien loin, évidemment, d'une forme de psychothérapie individualisée, etc., qui pourrait s'appliquer aux malades dans toute leur diversité. un des grands modes de traitement à l'asile d'aliénés du 19e siècle, c'est la mise au travail, et notamment la mise au travail agricole. Et de cette manière-là, voilà, on œuvre ou on pense œuvrer au rétablissement thérapeutique des malades, et dans le même temps, on rejoint les impératifs d'économie qu'on évoquait tout à l'heure.
Ah bah oui, bien sûr. Il y a toujours cette idée d'économie.
Oui, mais tout le problème, c'est que, en dépit de toute cette réflexion, de la mise en place de toute cette organisation, qui est, on le voit, hein, très réfléchie, débattue entre les aliénistes, le nombre de personnes aliénées ne cesse de croître. On a l'impression que plus on construit des asiles, plus il y a de fous. Et ça va très rapidement poser problème d'un point de vue économique. Hein. Les asiles aliénés sont financés par les départements, et les départements s'inquiètent de la charge que représente à la fois l'entretien des bâtiments, mais aussi le prix de séjour de tous ces malades. Et donc, ils poussent à ce qu'on réfléchisse à des solutions, à ce qu'on apporte des réponses à ce problème et qu'on stoppe cette croissance du nombre d'aliénés en France.
C'est-à-dire qu'il doit y avoir un asile d'aliénés par département, c'est ça que prévoient les lois ?
C'est ça le cadre général qui est défini par la loi de 1838. Bon, en pratique, il peut y avoir des départements qui en fait s'arrangent avec des départements voisins pour prendre en charge leurs aliénés. Si bien que au milieu des années 1870, on a encore à peu près une quinzaine de départements, si je me rappelle bien, qui ne sont pas encore pourvus d'un asile d'aliénés.
Bah oui, c'est vrai qu'on peut pas comparer tous les départements, ne serait-ce que par la population et le département de la Seine. Enfin, en tout cas, autour de Paris, c'est sûr que ça doit saturer très vite. Je voudrais juste comprendre comment on rentre dans ces asiles-là, parce que c'est le médecin qui vous prescrit une petite séance d'asile. Non, comment ça se passe? On l'a beaucoup dit, hein, il y a les autorités, vous l'avez évoqué, Marie Desrien, il y a toutes les autorités, que ce soit l'autorité paternelle, et puis le maire, et puis on monte.
Mmh. Oui, tout à fait. Alors, la loi de 1838, elle définit, elle encadre très précisément les modalités d'entrée dans les asiles d'aliénés. Il y a deux types de placements. Le placement volontaire, qui est en fait un placement demandé par un proche, et ce proche doit produire un certificat médical pour justifier sa demande. Et puis le placement d'office, qui est un placement qui est requis par l'autorité publique, donc le préfet de police dans la Seine et le préfet ailleurs. Et ce placement d'office, donc le préfet le prononce en s'appuyant sur un avis médical, mais aussi sur une enquête administrative et policière, l'ensemble de ces avis permettant d'attester qu'il y a un danger, que la personne est dangereuse pour elle-même ou pour son entourage.
Et c'est ça, hein. C'est ici l'autorité qui va décider, mais avec une grande diversité selon les départements et du point de vue de l'individu lui-même, pas de prise de décision. Ça peut arriver que quelqu'un décide de se faire hospitaliser?
Alors, c'est pas une possibilité qui est prévue en tant que telle par la loi de 1838, mais certains individus qui voudraient entrer à l'asile d'aliénés, ça peut arriver, notamment dans le cadre de certains parcours de vie que j'ai pu décrire dans le livre d'internés qui sont appelés par les médecins des récidivistes de l'internement et qui, en fait, dans le cadre de stratégies, qu'on pourrait dire de stratégies de survie, essaient de faire provoquer leur réinternement à l'asile. Ces individus-là, souvent, ils parviennent à détourner un peu le dispositif du placement volontaire avec la complicité d'un proche, ou alors à s'adresser à la police et puis à jouer parfois de leur passé d'interné pour se faire réadmettre à volonté. Et puis il y a aussi certains espaces asilaires un peu plus particuliers que Marie connaît bien et a étudié, on commence à pratiquer dès le début du XXe siècle des formes de placement libre.
Alors ça, c'est passionnant de voir comment, quand certains asiles sont saturés, et notamment dans les régions à forte population autour de Paris, des idées sont imaginées. Alors là encore, hein, il n'y a jamais une ligne simple pour comprendre. C'est à la fois pour un petit peu décharger ces asiles qui n'en peuvent plus, qui sont surpeuplés, mais aussi pour trouver une solution thérapeutique.
Oui, tout à fait. Alors, si on prend l'exemple des colonies familiales d'aliénés, par exemple, hein, ces petites villes, ces gros villages, disons, qui accueillent dans le Cher et dans l'Allier des patients qui étaient auparavant internés dans les asiles de Paris et de sa banlieue. Donc, si on prend l'exemple de ce dispositif, pour comprendre comment il est imaginé, créé à la fin du 19e siècle, il faut avoir en tête que ce qui va être à l'origine du projet, c'est bien la rencontre entre des intérêts médicaux et des intérêts politiques. D'un côté, on a des aliénistes réformateurs qui perçoivent toutes les limites du modèle asilaire, qui cherchent à le transformer de l'intérieur, en aménageant les asiles différemment, en pratiquant par exemple la politique de la porte ouverte. On va laisser les malades circuler plus librement à l'intérieur des asiles, en refusant l'utilisation des moyens de contrainte. Ces médecins, ils ont aussi, pour certains, l'ambition de tester d'autres façons de prendre en charge la maladie mentale à l'extérieur des asiles d'aliénés. Et donc, ils s'inspirent de modèles étrangers, de modèles de placement familial. Et puis, d'un autre côté, on a les pouvoirs politiques, et en l'occurrence, le département de la Seine, hein, puisque c'est lui qui a créé ces deux colonies familiales d'aliénés françaises, où on voit avec effarement croître le nombre des aliénés, je disais tout à l'heure. On se dit que la charge financière est quand même très lourde, et on est assez intéressé à l'idée de faire des économies en faisant sortir certains malades jugés incurables et en les plaçant chez des particuliers qui acceptent de s'en occuper en échange d'une indemnité qui est bien moins coûteuse que le prix de journée dans un asile parisien.
Où vont-ils être placés alors, ces aliénés? Donc, colonies familiales, c'est-à-dire qu'ils vont être à domicile chez des gens?
Voilà, tout à fait. Hein, le principe des colonies familiales consiste à faire sortir des asiles de Paris et de sa banlieue des malades jugés incurables et inoffensifs et de les confier à des particuliers qui acceptent de les héberger, de les nourrir, de blanchir leur linge, de les surveiller, les soigner. Ces particuliers, on les appelle des nourriciers. Les malades prennent le nom de pensionnaires et les foyers dans lesquels ils sont accueillis sont dénommés des placements.
Mais c'est pas n'importe où ça, hein. Il y a vraiment des lieux spécifiques.
Oui, tout à fait, hein. Il y a deux colonies familiales d'aliénés qui sont créées à la fin du 19e siècle en France. La première à Dun-sur-Oron, on est dans le département du Cher, à une trentaine de kilomètres de Bourges. Et cette première colonie, elle est réservée aux femmes. La deuxième colonie se situe à Haynel-Château, dans l'Allier, mais en fait on a une vingtaine de kilomètres de Dun, donc pas très loin de la première colonie. Au départ d'ailleurs, Haynel-Château est simplement une annexe de Dun, et puis elle prend son autonomie à partir de 1900.
Marie Desriens, j'entends bien, il y a donc non pas des internés dans ces colonies familiales, mais des pensionnaires, tandis qu'à l'asile d'aliénés, il y a des aliénés.
Je me souviens bien maintenant de l'état abattu et chagrin dans lequel j'étais quand je suis venue dans cet asile. Je suis mieux maintenant. Et ce n'est donc plus folie, c'est punition, car votre asile sert des deux. Et malgré mes regrets, mon bon vouloir, les prières et les vœux de ma famille et de mon petit garçon, qui m'a demandé si je voudrais bien venir avec lui, rien ne peut plus fléchir mon mari. J'ai toujours espéré, pendant 3 ans que je suis ici, que je rentrerai dans mon ménage, et j'espérerai toujours. Mais c'est long, et je m'ennuie de ne pas voir mes enfants. C'est tout au plus si mon père et mes frères viennent 4 fois par an. Je n'ai aucune amitié de mes enfants, et je voudrais pourtant que vous ne me repoussiez pas si je vous impatiente. Je me sens si malheureuse. Accordez-moi, je vous prie, d'aller voir mon petit garçon accompagné d'une religieuse. Ou bien faites venir mon mari, avec mon petit garçon.
France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Une lettre de Marie Lelarge, lue par Anne Toscane-Viudès. Une lettre directeur de quoi? On est en 1873.
De l'asile de Villévrard, donc situé à Neuilly-sur-Marne, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Paris.
Moi, ça m'interroge, hein, Anatole Lebras, sur la démarche de l'historien. Il y a le discours de l'autorité, on a parlé de loi, il y a le discours médical, et puis il y a toutes ces autres sources qui permettent de saisir le vécu de ces aliénés. Des correspondances? On les retrouve où, ces correspondances?
Dans les dossiers d'internement individuels, qui sont une source remarquablement riche et effectivement remarquablement polyphonique, et c'est là que réside une grande partie de leur intérêt. C'est-à-dire qu'on n'y trouve pas uniquement un discours de type administratif ou médical. On y trouve aussi énormément d'éclats de voix. Alors je dis éclats, mais ça peut être aussi parfois des écrits beaucoup plus longs, des internés eux-mêmes, et puis de leurs proches qui écrivent aux médecins. Alors bien sûr, avant de se plonger dans le contenu de ces écrits, il faut d'abord se poser la question de leur présence dans ce dossier. Pourquoi est-ce qu'un écrit d'interné peut se retrouver dans le dossier ? Et bien souvent, la réponse, quand il s'agit d'un document de la main de l'interné, c'est que le document justement n'est pas parvenu à son destinataire et que il a été bloqué par la censure du médecin ou du directeur. Parfois, les deux fonctions pouvaient être réunies dans les asiles d'aliénés et qu'elle se retrouve ainsi captive, on va dire, du dossier médical. Et bien sûr, il y a le cas, comme ce dossier de Marie Lelarge, des suppliques qui étaient envoyées directement au directeur ou au médecin.
Ça, c'est vraiment toute la question hein, des sources pour être au plus près du vécu. Croiser les sources, c'est la base de la démarche de l'historienne, de l'historien. Mais Marie Desrien, toucher le vécu est très difficile dans des moments où tout est contrôlé. La vie d'un individu, qu'il soit aliéné ou pensionnaire dans une colonie familiale, c'est plus ou moins contrôlé. Et donc là, la source est difficile d'accès.
Oui, mais en fait, ces lettres, elles existent, elles nous sont parvenues parce que justement, il y avait ce contrôle. C'est le côté un petit peu ambigu de la chose. Si les malades avaient été totalement libres d'écrire, de correspondre avec leur famille comme ils l'entendaient, on n'aurait pas accès à ce qu'ils pensaient. C'est bien parce qu'il y a cette censure que décrivait Anatole qu'on accède à ces sources de l'intime et à des récits qui nous permettent de comprendre l'expérience de la folie telle qu'elle était vécue par les malades internés eux-mêmes.
Et puis là, dans le cas de la lettre que nous avons entendue de Marie Lelarge, il y a le rapport à la famille, à ses enfants. Et dans la narration, alors on est sur une supplique, donc il y a un travail d'écriture pour rendre sensible le lecteur. Le lecteur, ici, c'est le directeur, mais on sent le lien complexe avec ses attaches familiales.
Oui, il y a un d'autant plus complexe que dans le cas de Marie Lelarge, on peut en fait, à travers ses écrits et puis aussi ceux de son mari, parce qu'on a aussi le point de vue du mari dans ce dossier, on peut reconstituer en fait l'histoire antérieure de cette femme qui est lingère ou couturière. Les registres hésitent à ce sujet sur la qualification précise de sa profession et qui semble avoir eu une relation très tumultueuse, très houleuse avec son mari et qui, une fois internée au début des années 1870 à l'asile de Villévrard, essaie en fait de convaincre à la fois son mari et le directeur médecin de l'asile de Villévrard de la laisser ressortir de l'asile. Mais en l'occurrence, elle se retrouve face à deux volontés conjuguées de ne pas écouter cette demande. Le mari écrit pour demander expressément à ce que les lettres de sa femme ne lui soient plus transmises. Il déménage aussi sans lui donner sa nouvelle adresse. Et donc là, on a un cas qui illustre aussi de manière un petit peu poignante, parce que Marie Lelarge a écrit beaucoup, beaucoup de lettres qui se sont accumulées en fait au fur et à mesure dans son dossier. Donc un cas qui illustre bien cette rupture des liens familiaux qui pouvait être occasionné, accentué par le placement à l'asile. Mais c'est pas non plus une règle générale, hein. Et il y a aussi beaucoup de cas où, au contraire, la famille réclame très activement la sortie du malade et parvient tout de même parfois à se faire entendre des médecins, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les médecins travaillent dans un contexte d'encombrement très important de leurs institutions, et si les familles leur offrent certaines garanties qu'ils estiment suffisantes, et bien parfois ils n'hésitent pas à leur rendre des malades, même si ceux-ci ne sont pas encore complètement guéris et simplement améliorés ou stabilisés.
Bah oui, c'est du cas par cas, hein, mais ce sont des dossiers médicaux, mais ce cas par cas correspond parfois à des tendances plus générales, et là les statistiques sont éventuellement possibles, elles ne sont pas toujours réalisables. Est-ce qu'il est possible de faire une histoire genrée ici pour savoir s'il y a plus de femmes qui sont internées ou plus d'hommes ?
Si on regarde les statistiques d'admission à l'asile, il y a un surplus d'hommes qui est assez net et qui est assez continu tout au long du 19e siècle, qui est de l'ordre à peu près de 10-15% selon les années. Ce qui est un phénomène qu'on peut rattacher finalement à ce qu'on disait des modalités d'internement selon la loi de 1838, qui a quand même pour vocation première, pas unique mais première, à réduire, à contrôler un certain nombre de troubles s'étant manifestés dans la sphère publique. Or, à travers les comportements qui sont éminemment masculins, disons, de la consommation d'alcool et des comportements violents qui s'expriment dans la sphère publique, on retrouve plus d'hommes internés chaque année. En revanche, et c'est là que c'est intéressant, les femmes restent plus longtemps à l'asile, rencontrent plus de difficultés à obtenir leur sortie, si bien que quand on regarde à un moment donné, par exemple au 1er janvier de chaque année, on constate en fait qu'il y a plus de femmes internées parce que même si elles entrent moins nombreuses, elles ressortent moins et elles restent plus longtemps dans les asiles d'aliénés.
Et ça, c'est une tendance que vous notez vous aussi, Marie Derrière.
Oui, tout à fait. Hein, c'est valable également pour toute la première moitié du XXe siècle. Il y a un phénomène d'accumulation, hein, pour parler avec un terme un peu statistique, des femmes dans les asiles d'aliénés puis dans les hôpitaux psychiatriques, puisque la dénomination change en 1937. Et donc, il ne faut pas s'intéresser seulement aux chiffres des admissions pour comprendre ce déséquilibre entre les genres qu'on observe dans ces établissements.
Et dans les colonies familiales ?
Dans les colonies familiales, alors ce qui est intéressant, c'est qu'au tout début, les colonies familiales sont imaginées pour les femmes. La première colonie, celle de Dun-sur-Oron, est une colonie qui est réservée aux femmes et aux femmes âgées, aux femmes atteintes de démence sénile. Alors pourquoi ce choix ? Parce que les femmes, donc, sont nombreuses dans les asiles d'aliénés qu'on cherche à désencombrer en créant ces colonies. Par ailleurs, elles sont nombreuses parmi les plus âgées, qui sont un peu l'archétype de la population indésirable aux yeux des aliénistes. Les démences séniles, ce sont des malades qu'on considère comme incurables, donc qui occupent inutilement des lits dans les asiles d'aliénés. Donc, la combinaison entre l'âge et le genre explique que on décide que la première colonie sera une colonie pour les femmes et pour les femmes âgées. Et puis bon, l'avantage avec ce profil, c'est aussi qu'on a affaire à des malades qui sont ménopausées. Et ça permet de lever les craintes d'un certain nombre de conseillers généraux qui s'inquiétaient de voir la colonie devenir, je cite, une fabrique d'aliénés.
Avec ici un modèle qui ressemble un peu à celui des nourrices. D'ailleurs, le mot est utilisé, hein, nourricier, nourricière. On confiait les enfants à des femmes à la campagne. Bon, bah là, on va confier des femmes âgées à la campagne. Donc, quel intérêt ? Donc, c'est avoir un revenu supplémentaire d'accueillir ces personnes ?
Oui, tout à fait. C'est vraiment ça qui constitue une des principales motivations pour devenir nourricier et en fait pour devenir nourricière. Parce que si on regarde de près les archives, on se rend compte que cette activité, elle est exercée très majoritairement par des femmes. En fait, il y a à Dun-sur-Oron, et ce sera la même chose quand NS sera créé quelques années plus tard, un vivier de travailleuses âgées qui sont confrontés à une dévaluation de leur force de travail sur le marché de l'emploi, qui, quand elles ont travaillé ou quand elles travaillent, ne touchent pas de salaire. Elles sont épouses de commerçants, d'artisans, de cultivateurs. Un certain nombre d'entre elles sont veuves. Elles n'ont pas droit aux mécanismes de protection sociale qui commencent à se mettre en place. Elles ne touchent pas de retraite, par exemple. Donc, elles sont dans une situation de grande précarité. Elles exercent déjà des formes de polyactivité et donc elles sont à la recherche de revenus d'appoint et l'indemnité que propose la colonie pour accueillir des malades à domicile constitue justement un de ces revenus d'appoint qu'elles recherchent. Et par ailleurs, parce qu'elles sont âgées, elles ont du temps et elles ont de la place chez elles. Pour la plupart, elles n'ont plus d'enfants à charge. Parfois, leur mari est décédé, donc elles ont une chambre, parfois deux chambres, qu'elles peuvent attribuer à des pensionnaires. Donc juste pour préciser les choses, quand je dis qu'elles sont âgées, je m'appuie sur un travail qu'on a mené avec ma collègue Mathilde Rossigneux-Méheust, à partir des dossiers de nourricières de la colonie de Dun, donc des nourrices ou nourricières, les deux termes sont utilisés, qui ont exercé entre 1895 et les années 1990. Et quand on fait des calculs, on se rend compte que ces femmes qui deviennent nourrices, elles entrent dans cette carrière, c'est l'âge médian, à 44 ans, et elles quittent cette activité à 71 ans. Et en fait, il n'y a pas de limite. Certaines continuent d'être nourricières jusqu'à leur mort, jusqu'à des âges très avancés.
Mais les médecins demeurent présents dans cette histoire.
Oui, tout à fait. À la colonie familiale, les malades sont placés donc chez, enfin les pensionnaires, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, sont placés chez des nourricières. Mais il y a un siège de la colonie avec une infirmerie. Les placements sont visités, inspectés à intervalles réguliers pour s'assurer que tout s'y passe le mieux possible, que les malades sont correctement nourris, traités. Il y a un contrôle médical qui s'exerce sur ces nourricières. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui a motivé le fait de placer les malades chez des étrangers plutôt que dans leur propre famille. Hein, les médecins savaient qu'ils exerceraient plus facilement un contrôle sur ce que faisaient les nourricières que sur ce que faisaient les proches à qui on confierait contre une indemnité un malade interné.
Voilà, tout à l'heure nous avons entendu la parole d'une aliénée, une lettre à son directeur. Et bien voici maintenant la parole d'une nourrice, d'une nourricière, elle aussi à son directeur.
J'ai été à la colonie ce matin pour demander une pensionnaire, on m'a très mal reçue. Comme je n'ai pas de pensionnaire depuis le mois de janvier, c'est-à-dire depuis que Madame N était malade, on m'en avait promis une au mois d'avril, et toujours rien. Quand je pense que dans beaucoup de maisons il y en a trois, et moi, qu'on laisse seule avec une, je ne trouve pas cela bien. Permettez-moi, monsieur le directeur, de vous dire que je ne peux rester seule avec une seule pensionnaire, car la vie est très dure et je suis seule. Monsieur le directeur, ayez la bonté de bien vouloir penser à moi.
Elle s'appelle Léonie, nous sommes en 1945. Qu'est-ce qu'on a ici comme démarche? C'est de se présenter fragile. Et d'ailleurs, il y a une mise en miroir de cette histoire-là où, vous nous l'avez dit, des personnes âgées accueillent des personnes âgées qui sont censées avoir leur... qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Perdu la raison
Être atteinte d'une maladie mentale.
Être atteinte d'une maladie mentale et qui, elles-mêmes, sont fragiles.
Oui, ce qu'on constate, c'est que la relation de soins, elle ne s'établit pas à sens unique. Hein, souvent, il y a des formes de réciprocité entre la nourrice et sa pensionnaire, ses pensionnaires, quand elle en accueille plusieurs. Les nourrices, parce qu'elles sont âgées, ont besoin de recevoir, elles aussi, des soins, ont besoin de recevoir une aide. Ça peut être le fait de déléguer certaines tâches domestiques, faire la vaisselle, aller faire les courses, entretenir le foyer. Et parfois, la relation de soins, ça va plus loin, elle s'inverse. Hein, et on a des nourrices qui sont entièrement prises en charge par leurs pensionnaires. Alors, Léonie, qu'on entendait à l'instant, elle va, par exemple, en décembre 1958, être décrite par, dans le rapport d'inspection qui est rédigé sur son placement, elle est décrite comme une nourrice âgée souffrante qui doit se faire aider. Je peux citer un autre exemple qui est encore plus révélateur, celui d'une autre nourrice, Elisa, qui a 80 ans dans les années 1940. Et quand on lit le rapport d'inspection, on découvre que c'est une, je cite, « vieille nourrice impotente vivant sous la dépendance de sa pensionnaire qui fait marcher le ménage et jouit d'une autorité absolue ».
Ah, c'est vraiment étonnant, hein. C'est vraiment étonnant et c'est d'autant plus étonnant en contraste avec les asiles d'aliénés, Anatole Le Braz. Parce que ici, ce phénomène des colonies familiales, ça naît à la fin du 19e siècle.
Voilà, d'un sur-Oron est créé en 1892.
Ces asiles d'aliénés, eux, c'est une toute autre démarche. Mais malgré tout, il y a une démarche de tentative d'améliorer le sort des malades, voire de les guérir.
Oui, bien sûr, il y a cette idée, encore une fois, dans l'isolement thérapeutique, que en enfermant, on concourt non seulement à la tranquillité de la société, mais aussi au bien-être du malade. Mais cela dit, effectivement, la relation qui est ici décrite par Marie entre malade et nourricière est assez singulière et assez unique. En même temps, on pourrait peut-être faire des liens aussi avec certaines suppliques familiales qu'on peut lire aussi dans les dossiers d'internement à l'asile d'aliénés, où finalement, des membres de la famille arguent de leur propre fragilité, de leur propre vulnérabilité pour réclamer la sortie de la personne internée, qui, en particulier si c'est un homme, est souvent aussi le principal soutien de famille. Donc parfois, effectivement, quand on plonge dans les dossiers, on se rend compte que les vulnérabilités, les fragilités ne se réduisent pas à la personne qui est entre les murs.
Ça doit être éprouvant à étudier ces lettres parce qu'elles touchent à l'intime. Et puis, comme on le disait, nous sommes dans le registre de la supplique. Et la supplique pousse un peu le curseur, parfois, de l'aspect... triste et misérable d'une situation, c'est un registre qui est toujours sombre comme ça, ou est-ce que l'on sent, malgré tout, et qui correspondrait à la volonté des autorités, soit qu'elles mettent en place des colonies familiales, soit qu'elles dirigent un asile d'aliénés, que le patient ou la patiente aille mieux? Est-ce que l'on voit ici, quand même, à travers les sources, des choses, j'ai envie de dire, positives?
Alors, une manière de répondre, c'est de dire que finalement, alors effectivement, dans ces récits, et particulièrement parce que ce sont des suppliques qui s'adressent au directeur ou au médecin, bien souvent, les scripteurs peuvent avoir tendance à essayer d'apitoyer le destinataire sur leur sort. Mais on peut aussi lire beaucoup de ces lettres, qu'elles émanent des familles, ou là, je pense plus particulièrement aux internés, aussi comme des occasions de subjectivation. Si on reprend un peu le regard que Philippe Artière, par exemple, l'historien Philippe Artière, avait pu poser sur les écrits de prisonniers finalement sur la manière dont prendre la plume, c'est aussi souvent une manière de reprendre un petit peu possession du récit de sa vie et c'est aussi se plonger finalement dans les marges de manœuvre souvent un petit peu ténues mais les possibilités qu'avaient aussi ces personnes-là de pouvoir négocier leur sort, de pouvoir contourner certains des dispositifs dans lesquels elles étaient prises.
Et si on revient aux colonies familiales d'aliénés, on trouve dans les dossiers de pensionnaires des lettres qui sont des lettres très joyeuses, très positives, hein, de malades qui ont passé des années dans les asiles de Paris ou de sa banlieue et qui découvrent avec un certain bonheur leur nouveau sort dans les colonies familiales d'aliénés. Je pense notamment à la lettre d'une malade qui écrit à une de ses amies qui lui dit « Voilà, j'ai une chambre à moi, je ne suis plus dans un dortoir d'asile, je ne suis pas obligée de porter un uniforme, j'ai mes vêtements que je peux ranger dans une malle qui se trouve dans ma chambre, je peux me rendre à la messe, déambuler dans le village, faire mes commissions, je peux t'écrire comme je le veux, quand je le veux et correspondre avec toi. » Donc voilà, il y a quand même des malades qui tirent un bénéfice certain de leur transfert dans les colonies familiales d'aliénés et toutes les lettres ne sont pas des lettres triste et déprimante.
Et dans ce que vient de décrire Marie, c'est très intéressant parce qu'on lit aussi en négatif hein, certains aspects de la condition asilaire. Et notamment, j'ai été sensible dans ce qui vient d'être lu à cette attention aux possessions matérielles. Une des dimensions de l'entrée à l'asile, c'est pas seulement tout ce qu'on a déjà dit, la privation de liberté, la coupure souvent avec les proches. C'est aussi une forme de dépossession de ses biens, à la fois de son patrimoine, parce que d'un point de vue juridique, on devient un mineur juridique, on est privé de ses droits civils et civiques. Mais aussi matériellement, voilà, à l'entrée à l'asile, on doit laisser un certain nombre de ses possessions personnelles au vestiaire, sans garantie de les retrouver à la sortie. On doit abandonner derrière soi ses meubles ou ses quelques possessions qui parfois vont être récupérées par les proches, d'autres fois vont être un petit peu dilapidées, vendues à bas prix. Et donc il y a toute cette dimension aussi matérielle qui revient très souvent en fait dans les témoignages des internés, qui est une dimension vraiment centrale de leur expérience de l'internement.
Et puis dans les colonies familiales d'aliénés, j'ai dit tout à l'heure qu'au départ, on avait imaginé le dispositif uniquement pour des femmes atteintes de démence sénile. Mais ça, c'est les toutes premières années. En fait, très vite, hein, le profil des malades est bien plus complexe. Et très vite, les médecins ont des objectifs thérapeutiques. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant et réjouissant aussi dans le modèle des colonies familiales d'aliénés, c'est l'idée que ces malades a priori incurables, on peut quand même quelque chose pour eux. Et le simple fait de les faire participer à la vie sociale, c'est déjà un moyen de les améliorer, pour reprendre un terme qui est en vigueur dans le discours médical à l'époque, ou de les guérir.
Eh oui, c'est ça. C'est toujours cette idée, pourquoi pas les guérir, avec la question qui s'oppose, et on voit une différence très nette entre ces asiles d'aliénés et ces colonies familiales, qui est l'encadrement ou le personnel. Dans les colonies familiales, le médecin, l'inspecteur qui passe, mais les personnes qui accueillent ces nourrices, nourricières, ne sont pas formées.
Non, pas du tout. Elles n'ont aucune formation jusque dans les années 1990. Ce sont des femmes qui sont totalement profanes, mais qui vont développer tout un tas de savoir-faire, de pratiques, de gestes au contact de ces pensionnaires et qui se transmettent d'ailleurs parfois ces savoir-faire, ces gestes de mère en fille au sein des colonies familiales.
Colonie familiale d'Enel Château.
Le principe fondamental était le partage complet de la vie familiale. La structure, c'est un hôpital psychiatrique qui reçoit les patients et les place dans des familles. À l'époque où j'ai fait mon enquête, j'ai pris mes contacts en 68 et j'ai commencé vraiment à travailler 69 jusqu'en 74. Et quand j'y étais, il y avait l'hôpital psychiatrique qui est le centre de la colonie à Aîné-le-Château, et les placements, le lieu est appelé un placement, il y en avait plus de 500 qui accueillaient 1200 malades, qu'on appelait des pensionnaires, hein, les familles s'appelaient des familles nourricières, et elles étaient réparties dans 13 communes différentes, dans un périmètre de 15 km autour de la colonie familiale. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Au départ, c'était vraiment centré sur le petit bourg d'Aîné-le-Château, et ça a permis de sauver un mode d'existence qui était complètement menacé avec les petites propriétés. L'argument économique a été quelque chose de fondamental, mais presque obsessionnel dans les récits que les gens faisaient, des raisons pour lesquelles ils prenaient des malades. Et dans certains cas, le travail agricole des patients était très apprécié. Il y avait des véritables ouvriers agricoles qui étaient des pensionnaires hébergés à la colonie.
La psychologue Denise Jodelet qui s'exprimait en 2010 sur France Culture avec ici mais quelque chose qui tient toujours à l'émotion. Et c'est très difficile hein, d'écrire cette histoire qui est liée au sensible avec... L'idée toujours de marge, parce que nous sommes malgré tout, et même si c'est une colonie familiale, dans la volonté d'invisibiliser, c'est-à-dire d'écarter. Nous ne sommes pas dans tous les petits villages de France qui peuvent accueillir des pensionnaires. On est vraiment sur des lieux vraiment spécifiques.
Oui, c'est d'ailleurs assez révélateur de voir que le modèle ne s'est pas propagé et qu'il n'y a pas eu d'autres colonies familiales qui ont été créées en France. Cela dit, ce qui permet d'expliquer justement que Dain et Aîné soient restés des cas à part, ce n'est pas uniquement le fait qu'il y aurait des préjugés, des préventions à l'égard des malades mentaux qui auraient empêché de répliquer le modèle. Il y a plein de facteurs en fait qui interviennent. Il y a le fait que les familles sont parfois réticentes hein, à voir leurs proches être transférés dans ces villages d'Aîné et de Dain, très loin de Paris. Donc si d'autres départements avaient fait la même chose, peut-être qu'ils auraient dû aussi séparer, éloigner des familles de leurs proches internés. Il y a le fait qu'il y a des dissensions professionnelles aussi importantes qui sont à prendre en considération. Les médecins qui travaillent dans les asiles, puis hôpitaux psychiatriques, ils n'ont pas très envie de voir partir dans des colonies familiales d'aliénés leurs meilleurs malades. Ceux qui, certes, sont considérés comme incurables, mais qui sont dociles, agréables, travailleurs. L'idée que les colonies familiales deviennent un peu le dispositif vitrine et puis que les asiles soient, pour le coup, ceux qui restent avec tous les marginaux, le rebut, elle est assez mal vécue hein, par les médecins qui travaillent dans les asiles d'aliénés. Donc c'est ce qui explique aussi que le modèle des colonies familiales n'ait pas été adopté très largement à l'échelle de toute la France.
À la différence de ce que vous étudiez, vous, Anatole Lebraz.
Oui, bah en tout cas, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'aliénistes qui sont restés peut-être plutôt fidèles à une formule institutionnelle antérieure à celle des colonies familiales et qui présentaient d'autres avantages à leurs yeux. Je pense notamment au système de la colonisation agricole. L'idée qu'on crée des colonies agricoles, soit situées dans le périmètre de l'asile d'aliéné, soit juste à proximité. L'asile de Clermont de l'Oise, cet asile gigantesque que j'évoquais tout à l'heure, avait été un peu pionnier dans ce modèle-là. Et pour un certain nombre d'aliénistes qui étaient peut-être moins réformateurs que ceux qui ont été actifs dans le processus de création des colonies familiales. C'était un modèle qui présentait plus d'avantages, qui leur permettait justement, comme l'évoquait Marie, de garder le contrôle un peu sur leurs meilleurs malades, sur les malades travailleurs, en leur offrant, on va dire, à moindre frais, une vie avec un petit peu plus de marge de liberté, puisque quand ils étaient en colonie agricole, souvent on y mettait les malades convalescents, qui pouvaient disposer d'une liberté de circulation un peu plus grande que ceux qui étaient consignés dans les quartiers classiques de l'asile d'aliéné.
Dans le cas des colonies familiales, on le voit bien, hein, ces nourrices ne sont pas formées, mais il y a toujours un encadrement malgré tout dans les asiles d'aliénés. Anatole Lebraz, là, le personnel est formé du médecin à la personne la plus proche du malade, avec énormément de variétés, hein, faut le rappeler aussi, selon... peut-être simplement la volonté du directeur de l'asile.
Oui, il y a une grande diversité de statuts dans le personnel d'encadrement, dans le personnel de soins, dans les asiles d'aliénés. La professionnalisation hein, du métier d'infirmier, et plus particulièrement du métier d'infirmier en hôpital psychiatrique, c'est quand même plutôt un processus qui intervient au XXe siècle. Et donc au XIXe siècle, on a un personnel que d'ailleurs on qualifie parfois de gardien, parfois d'infirmier. Il y a un flou terminologique qui dit bien quelque chose des fonctions réelles qu'ils étaient amenés à exercer. Et très souvent, d'ailleurs, les médecins se plaignent beaucoup hein, de l'incompétence, du manque de formation de ces infirmiers et gardiens. Et puis, il y a tout le personnel religieux aussi, hein, qui était présent, y compris dans les institutions publiques. C'est le cas dans les asiles que j'ai pu étudier, dont j'ai pu étudier les archives, à Quimper, à Morlaix, dans le Finistère, et puis à Villévrard, jusqu'à la laïcisation, dans le cas de Villévrard, qui intervient dans les années 1880. Mais donc, il y a cette présence très, très forte des congrégations religieuses aussi dans le personnel de soins et d'encadrement à l'asile.
Merci vivement à tous les deux de nous avoir présenté à la fois ces asiles d'aliénés, hôpitaux psychiatriques, et ces colonies familiales avec cette grande diversité hein, qui rend le sujet complexe, mais avec vous, il devient éclairant. Merci beaucoup Anatole Lebras, merci beaucoup Marie Desrien.
Merci.
Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noriel. C'est le pourquoi du comment.
Pourquoi le refroidissement climatique a-t-il accéléré la chute de Rome ? L'histoire ancienne a-t-elle sa place dans la réflexion contemporaine sur la crise environnementale ? C'est la question à laquelle tente de répondre aujourd'hui un petit nombre de spécialistes de cette période. La principale difficulté tient au fait que les sociétés antiques faisaient partie d'un monde très éloigné du nôtre, que ce soit sur le plan de leur développement industriel, de leurs croyances ou de leur organisation sociale. Néanmoins, c'est ce défi qu'a tenté de relever récemment l'historien américain Kyle Harper dans son ouvrage intitulé « Comment l'Empire romain s'est effondré, le climat, les maladies et la chute de Rome ». Depuis l'œuvre fondatrice d'Edward Gibbon, parue en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, le thème de la chute de Rome a fasciné les historiens du monde occidental. C'est donc un sujet hyper classique que Kyle Harper, spécialiste reconnu de l'Antiquité tardive, a tenté de renouveler. En mobilisant les découvertes les plus récentes dans le domaine des sciences, du climat et de l'archéobiologie, il a mis en relief le rôle qu'avaient joué dans l'effondrement de Rome les changements climatiques, les éruptions volcaniques, les cycles solaires ou la circulation des virus. Il insiste tout particulièrement sur les débuts du petit âge glaciaire au 5e siècle. Le refroidissement climatique, mais aussi l'épidémie de peste bubonique qui a provoqué la disparition de la moitié de la population de l'Empire vers le milieu du VIe siècle, aurait accéléré la décomposition finale de l'Empire romain. Cette thèse n'a pas fait l'unanimité parmi les spécialistes. On lui a reproché d'avoir accordé un rôle excessif aux facteurs environnementaux et biologiques au détriment des explications sociales, économiques ou politiques. Si l'on veut tirer les leçons du passé pour agir sur notre présent, il est important, en effet, d'insister sur le rôle que jouent les activités humaines dans les transformations de la nature, car c'est un moyen de mieux comprendre comment les sociétés parviennent ou non à s'adapter à ces changements. Les aléas climatiques et environnementaux deviennent des catastrophes seulement lorsque des activités humaines sont exposées à un risque naturel comme les inondations ou les séismes. De même, pour qu'un virus puisse se propager rapidement dans une société, il faut que les contacts entre les êtres humains soient suffisamment développés, ce qui est le cas dans des villes très peuplées. L'ouvrage de Harper a le mérite de montrer combien les facteurs environnementaux peuvent peser sur le devenir de l'humanité. Mais le principal enseignement que l'on peut en tirer pour notre présent concerne l'aveuglement des Romains face aux problèmes que posait à cette époque la concentration dans une même ville de plus d'un million d'habitants. Certes, cela favorisa l'échange des savoirs et la spécialisation du travail. Mais cette urbanisation massive augmenta en contrepartie la mortalité en permettant une circulation accélérée des maladies infectieuses. La pression sur le capital humain fut trop forte, ce qui entrava finalement le développement économique de l'Empire romain.
Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, avec aujourd'hui à la technique Lucas Finet. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Anne-Tosienne Vudel, Jeanne Copet, Mathieu Copal et Mayouen Guizhou. Le cours de l'histoire à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.